de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de films. Aujourd'hui, il y en aura trois. Et puis, comme c'était les Césars, eh bien, chaque année, on fait une espèce de petit montage pour résumer cette cérémonie, si vous l'avez manqué, ou si, comme Manu, eh bien, vous ne la regardez jamais. Voilà, c'est l'occasion de vous rattraper. Alors, donc, trois films pour trois chroniqueurs. Manu, de quoi vas-tu nous parler?
Un film que j'ai regardé, qui est donc Mickey 17 de Bong Joon-ho.
Oui, film très attendu forcément par le réalisateur coréen déjà primé à Cannes. Toi, Sophia, c'est un film qui a marqué le Festival de Cannes.
Oui, non loin de la Corée, la Chine. Je vous parlerai de Black Dog de Gwan-ho.
Et puis toi, Guillaume, un film français.
Oui, c'est Le Système Victoria de Sylvain Desclous.
Allez, les exclus de la croissance économique au cœur de Black Dog prit un certain regard à Cannes. Nous en parlons maintenant dans Cinérama.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Récompensé par la Palme d'Or dans la section Un certain regard en mai dernier à Cannes, Black Dog de Gwan-ho s'est distingué au sein de la sélection par son approche sociale grinçante, conjuguée à un humour mordant et à une poésie visuelle qui confère au film une tendre mélancolie. Si son héros mutique et solitaire évoque l'archétype du guerrier errant à l'instar de Mad Max, le cinéaste décline ici une proposition bien plus ancrée dans une réalité chinoise désillusionnée. Après le drame musical et le blockbuster de guerre, comme la Brigade des 800 en 2020, Gwan-ho pose cette fois-ci un regard acéré sur son pays, envisagé comme une aberration, mais voilà, de celles qui sont éminemment cinématographiques. Nous sommes en 2008, année des Jeux Olympiques de Beijing. Loin du faste des cérémonies, Black Dog nous plonge dans une ville quasi fantôme, à la lisière du désert de Gobi. Une zone aride et inhospitalière, faite de steppes désolées, théâtre parfait pour un western sans promesse d'avenir. Ici, les vestiges du passé résistent, tant bien que mal, à l'inexorable avancée du temps, car un grand projet de refonte urbaine a fait fuir bon nombre d'habitants, humains du moins, car leur départ a abandonné les rues de la ville aux chiens. Des manèges abandonnés et un zoo en ruine, hanté par un tigre famélique, témoigne d'un passé qui refuse de s'effacer, dans un monde qui avance sans se retourner. Tandis que coexistent dans ce rude environnement gang à moto, convois poussiéreux et figures excentriques, comme le boucher élevant des serpents pour leur viande et leur venin. Lang, interprété par Eddie Peng, boule à zéro, ex-star du rock devenu repris de justice après un homicide, rentre dans cette ville, sa ville natale, en bus. Pour se réinsérer, il est assigné à une patrouille chargée, suivant les directives des autorités chinoise, de capturer les chiens errants accusés à tort ou à raison d'être porteurs de la rage. Mais très vite, il se prend d'affection pour l'un d'entre eux, un lévrier anthracite, le Black Dog du titre. Une tempête de sable se charge alors de préciser les enjeux du récit. L'influence de Jiang Zhangke est palpable tout au long du film et pour cause, le cinéaste ne se contente pas d'inspirer Gwan-ho, il est littéralement dans le film, incarnant un chef de gang traquant les chiens errants. Comme dans Caught by the Tides, Les Feux Sauvages de Jiang Zhangke, encore projeté actuellement dans quelques salles en France après avoir été présenté à Cannes, en mai dernier également, le silence s'impose et Gwan-ho mise sur une narration épurée où l'action et la contemplation remplacent les dialogues. Avec son acolyte canin, Lang forme un duo d'underdogs qui se reconstruisent ensemble, de créatures solitaires et meurtries, témoins d'un pays qui les a laissés pour compte. Le cinéaste alterne entre un portrait micro, intime, des marginaux oubliés par la République populaire de cette Chine olympique, et une peinture plus large, macro, du poids écrasant de la bureaucratie et d'une corruption impunie. Car dans cet univers abandonné, les luttes de pouvoir pouvoir et les règlements de compte entre gangs persistent, éloignés des projecteurs de la grande messe internationale des JO. Grand film d'ambiance, hein, Black Dog impressionne par sa plastique austère et hypnotique, servie par une bande-son détonnante. Le rock y a une place de choix, notamment un morceau, Hey You, de Pink Floyd, qui revient sous différentes variations tout au long du film. Un choix hautement symbolique, hein, puisque cette chanson iconique évoque le basculement vers la folie d'un personnage, Pink, cherchant à renouer avec le monde après s'en être trop éloigné. Un écho parfait, hein, donc à la trajectoire de Lang, son isolement et sa rédemption par l'amitié canine. Enfin, l'humour distillé par petites touches apporte une légèreté inattendue. Lors d'une altercation absurde, Lang et le chien se disputent le même bout de mur pour marquer leur territoire, une manière ironique d'illustrer la difficulté à trouver sa place dans un monde en pleine mutation. Parmi les plus belles propositions contemplatives du dernier festival de Cannes, à mon sens, hein, Black Dog offre un regard poignant sur une Chine laissée en marge de son propre développement.
Et c'est effectivement un film qui a beaucoup marqué à Cannes, qui a surpris et que tu as vu également, Guillaume. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je suis entièrement d'accord avec toi, hein, Sophia. Un joli jeu de mots avec Underdog, parce que c'est exactement ce qui fait pour moi la force du film. Hein. Bon, déjà, le rythme est très, très contemplatif, mais je trouve très, très bien taillé et travaillé. Et Underdog, oui, parce que jeu de mots vraiment bien, parce qu'en fait, c'est vraiment deux laissés pour compte, deux parias qui vont se trouver, se compléter, et puis qui vont se battre contre tout un système, en fait. Et en fait, sans revenir sur tout ce que tu as dit, non, je suis d'accord, ça me fait penser à un film hongrois qui date d'il y a une dizaine d'années, qui s'appelle White God, qui met en scène une petite fille qui assiste à une révolte de chiens au beau milieu d'une ville. Et il y a aussi un côté post-apocalyptique, sans que ça soit dans un monde post-apocalyptique. C'est la revanche des opprimés, des mis au banc de la société. Ben là, littéralement, ils sont mis dans des chenilles là, pour être euthanasiés. Et il y a une mise en scène qui tourne autour de cette contemplation qui se transforme en révolte. Et ce que j'aimais, c'est toute la tendresse qu'il y a dans Black Dog. On pourrait s'attendre à quelque chose de plus rugueux. Donc voilà, c'est une belle surprise. Au début, je me demandais dans quel sens ça allait partir. Et en fait, c'est un très beau travail. Hein.
Black Dog est en salle depuis le 5 mars. De la Chine, nous passons cette fois-ci à la Corée, mais pas tout à fait, hein, puisque nous retrouvons Robert Pattinson dans le dernier film de Bong Joon-ho, Mickey 17. Alors Robert Pattinson, qu'on avait vu dans le Batman de Matt Reeves la dernière fois, eh bien donc joue cette fois-ci un homme qui doit mourir régulièrement pour gagner sa vie. Tragédie, farce et satire politique sont au rendez-vous.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre.
Vous postulez pour devenir un remplaçable ? Vous avez lu tout le formulaire.
Ouais. J'aurais dû tout lire.
Multi-récompensé, entre autres avec la Palme d'Or méritée de Parasite et ensuite l'Oscar du meilleur film en 2020. Alors, sans compter le succès populaire inédit en France et dans le monde pour un film coréen, Bong Joon-ho aurait pu se reposer sur ses lauriers ou du moins se laisser aspirer par la machine hollywoodienne qui lui a fait les yeux doux. Alors, il ne serait pas le premier ni le dernier à tomber dans le panneau en se retrouvant à la tête d'un projet plus impersonnel que prévu. Mais fort de son expérience internationale, avec notamment son excellente adaptation de la BD de Rochette et Lobe Snowpiercer, et puis le décevant aussi Okja, enfin à mon sens, hein. Bong Joon-ho ne s'est pas laissé intimider et remet le couvert avec un film de SF ambitieux, satire politique festive et décomplexée, synthétisant bon nombre de thématiques présentes dans ses opus antérieurs. Alors pourtant on craignait le formatage pour des raisons pratiques, hein. Mickey 17 fut tourné entre août et septembre 2022 et a souffert ensuite d'une post-production compliquée étalée sur 2 années. Alors cette attente n'accouche pas d'une souris, ni d'un chef-d'œuvre, mais d'une œuvre passionnante, bancale et imparfaite par bien des aspects qui s'inscrivent pleinement dans la filmographie d'un des plus grands auteurs contemporains.
Eh bien, Mickey, respire à fond. Imagine qu'il y a un virus inconnu dans l'air.
Et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi.
Tous les virus.
C'est bien. Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air. Du genre mortel.
À demain!
Adaptation libre d'un roman d'Edward Ashton, hein, qui lui-même s'inspire de l'univers de Philip K. Dick, hein. Mickey 17 se déroule donc en 2054. Mickey Barnes, un chef pâtissier, souhaite ouvrir une boutique de macarons, mais il se retrouve forcé, en raison de dettes, de fuir dans une mission de colonisation de la planète Nightflame, sous la houlette du milliardaire Kenneth Marshall, homme politique raté. Alors Mickey devient remplaçable, un homme à tout faire, corvéable à merci, qui peut mourir dans l'exercice de ses missions et être répliqué automatiquement par une bio-imprimante 3D. Il est donc ce corps maltraité, déchiqueté, déclassé, qui subit de multiples expérimentations en tant que cobaye pour tester, entre autres, de nouveaux gaz toxiques ou encore des antidotes. Alors au moment où le film démarre, Mickey en est déjà à sa 17e réincarnation. Un flashback conséquent évoque quelques-unes de ses morts et résurrections successives dans un style enlevé, proche du cartoon, poussant l'humour noir jusqu'à l'absurde existentiel. Alors jusqu'au jour où il se retrouve face à un autre lui, le numéro 18, suite à un sauvetage in extremis.
Ils me font bosser comme un malade, mission après mission.
Tu es un remplaçable ! Tu es là pour être remplacé !
À chaque fois que je meurs, ils me réimpriment. Et tout le monde me demande...
Quand on meurt, ça fait quoi ?
Le vaisseau est principalement rempli d'abrutis. Mais Nasha, elle m'a toujours aimé. Et d'un coup, tout a basculé.
D'un sujet classique de la littérature SF, Bong Joon-ho en tire une farce jubilatoire, un condensé de ses obsessions, donc qui mêle critique du pouvoir despotique, lutte des classes, avilissement de l'être humain par les plus nantis, arrogance de la nature humaine qui méprise les autres races ou les animaux, ici symbolisé par des monstres bien plus pacifistes que les tristes sires qui dirigent l'expédition. Alors rien à dire, cette dystopie est brillante, drôle et féroce, portée par l'interprétation remarquable de Robert Pattinson, qui parvient à être crédible dans ses diverses incarnations avec un jeu tout en nuances. Alors face à lui, Mark Ruffalo et Tony Nicolette se livre à un numéro de cabotinage un peu too much, bien que réjouissant, en despote ridicule, nous rappelant parfois la folie de certaines figures politiques contemporaines. Profitons-en, car il n'est pas sûr qu'un grand studio comme Warner produise dans les années à venir des œuvres aussi déjantées. La photo de Darius Conji est somptueuse et le design des monstres est parfait, greffe séduisante entre des gros vers et des insectes. Alors le côté animiste du cinéaste ressurgit par instant, réussissant ainsi à insuffler une émotion étrange provenant de ces grosses bébêtes.
T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur.
Si le spectacle nous venge de tous les divertissements hollywoodiens actuels, le film contient ses propres limites dans sa charge parodique, parfois balourde. En effet, en misant essentiellement sur sa dimension bouffonne, quasi carnavalesque, le coréen brise l'équilibre fragile entre le tragique et le comique qui élevait Memories of Murder et The Host vers des cimes inespérées. En minimisant l'angoisse existentielle intrinsèque au récit, le film perd en émotion et en profondeur ce qu'il gagne en efficacité immédiate et en superficialité. Alors la dernière heure, excessivement bavarde d'ailleurs, freine la virtuosité de la mise en scène qui devient plus statique malgré quelques séquences impressionnantes. S'il ne convainc pas entièrement, Mickey 17 reste un divertissement intelligent et jouissif qui propose un futur aussi déprimant que plausible. Alors surtout par les temps qui courent, enfin presque, parce qu'on n'a pas encore prévu de se dupliquer ni de nous envoyer dans l'espace là où personne ne nous entend crier. Mais sait-on jamais. Ah oui, et le roman, il s'appelait, je crois qu'ils étaient pas au bout de la 17e réincarnation, mais il n'y en avait que 7. Mmh. Voilà. Bon. Voilà, c'est bon, tout.
Ça valait le coup d'en rajouter. Et en tout cas, alors autant, effectivement, Robert Pattinson déçoit peu, je trouve, dans ses interprétations, alors que Mark Ruffalo, c'est pas la première fois où il devient décevant.
C'est pas décevant, il est enroulé. Il faut aimer ce genre d'interprétation un peu too much, où il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc le dernier film de Bong Joon-ho, c'est Mickey 17, effectivement, produit par la Warner, donc il est passé du côté vraiment américain. Et c'est en salle depuis le 5 mars. Nous allons maintenant parler des Césars qui se sont déroulés le 28 février.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait.
Alors, on pourrait faire un petit tour de la table pour savoir qui déjà a regardé. Alors, toi, Manu, tu ne l'as pas regardé depuis 1989. Mais qui a regardé César ? Vous avez au moins regardé le palmarès ?
J'ai regardé le palmarès, oui.
Voilà. Bon. Alors, on va d'abord écouter un petit résumé. Ça, c'est ce qu'on fait chaque année dans Cinérama. Ça dure plus ou moins longtemps. Là, j'ai essayé de faire le plus court possible. C'est un peu plus de 5 minutes, un petit condensé. Alors, sauf que cette année, je n'ai pas mis ni le prix du court-métrage, ni le prix du court-métrage d'animation que j'ai pourtant vu.
Bien, ouvre tes oreilles.
J'espère que ma présence ce soir pourra donner de l'espoir à tous ceux qui sont devant leur télé et qui se disent que le cinéma, c'est impossible, c'est pas pour eux. Bah si, le cinéma, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Et vive le cinéma français !
Ah, à la bonne heure.
La meilleure actrice dans un second rôle est attribuée à Nina Meurice dans l'histoire de Suleymane.
Et le César du meilleur scénario original est attribué à Boris Lochkin et Delphine Lagut pour l'histoire de Suleymane.
Et le César du meilleur montage est attribué à
Xavier Sirvin pour l'histoire de Suleyman.
Et là, moi, ce que j'ai assisté quand j'ai travaillé sur ce film, c'est le travail d'alchimie sidérant, mais sidérant, que Abou Sangaré a fait.
Le César de la révélation masculine est attribué à Abou Sangaré.
Comment ça se fait qu'un sans-papier tourne un film comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Merci à vous.
C'est noté, monsieur.
Et le César de la révélation féminine est attribué à
Maïwenn Barthélémy dans 20 Dieux.
Je pensais pas que depuis ma campagne, il y a un an et demi, je serais là ce soir et que j'aurais cette récompense.
C'est fou cette histoire.
Et le César du meilleur premier film est attribué à 20 Dieux.
On n'aurait jamais osé espérer se retrouver là ce soir en face de Julia Roberts, qui est quand même la plus grande actrice de tous les temps, grâce à une histoire de fromage. Donc merci à vous, merci à l'Académie.
L'Académie des Césars et Canal+ ont choisi de décerner un César d'honneur à Julia Roberts.
Vous savez, je n'ai pas de mots pour vous décrire mon mari parce qu'on vient de se rencontrer.
Vous êtes formidable.
L'Académie des Césars et Canal+ ont souhaité rendre hommage à Michel Blanc, disparu cette année.
Vous êtes bien Michel Blanc ?
Ah oui, c'est moi, oui.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Le César du meilleur acteur est attribué à...
Gaël Lelouch !
Merci Arnaud et Jean-Marie Larrieux.
Voyez-vous ça ?
Le César de la meilleure actrice,
Afia Gisombango.
Ça a été une magnifique rencontre artistique. J'ai adoré ce personnage.
C'est comment il t'appelle, les autres détenus ?
C'est quoi, un truc raciste ?
Non, il t'appelle Ibiza. À cause de la chanson de Julien Clerc.
Et le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Alain Chabat.
C'est que je dois remercier Gilles, Gilles Lelouch. Merci Gilles. Et puis quand même, j'avais aussi un message à dire au monde, sur l'état du monde, non, et sur le cinéma en général. Donc j'avais quand même... Alors ça, c'est quoi ça? Ah ouais. J'aime bien ce son. Pardon, je m'égare complètement, c'est pas du tout ça que je voulais dire. J'ai vachement de temps en fait. Ah ouais, moi je croyais que j'allais me prendre la musique dans la gueule très vite.
Et le César du meilleur documentaire est attribué à La ferme de Bertrand de Gilles Perret.
Donc ben, merci pour ce César que je dédie à la famille Bertrand, mes voisins. Mais à travers la famille Bertrand, je voudrais dédier ce César à toutes celles et tous ceux qui ne désirent qu'une seule chose, c'est vivre dignement de leur travail.
Je dois reconnaître que vous êtes d'une rare subtilité.
Et le César des meilleurs décors est attribué à Stéphane Taillasson pour le Comte de Monte Cristo.
Et le César des meilleurs costumes est attribué à
Thierry Delettre. Pour le Comte de Monte-Cristo.
C'est pour l'équipe costume, évidemment, et c'est aussi un peu pour le maquillage et la coiffure qui n'ont pas encore ce bel objet pour eux. Merci.
Toutes mes excuses.
Le César du meilleur film étranger est attribué à Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt.
Nous voulions que le film nous pose à tous, encore aujourd'hui, des questions sur la déshumanisation.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
Je vous invite à honorer avec force un réalisateur qui a fait du cinéma une arme de réflexion massive, Monsieur Costa Gavras.
Je voulais dire merci à la France.
Pas possible que le côté patriotique de la chose t'échappe.
Le César du meilleur film d'animation est attribué à Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau.
Guide, tu n'as pas pu être là parce qu'il est aux Oscars.
J'ai tout de suite compris que vous étiez extrêmement fort dans votre spécialité.
L'Académie a donc décidé de créer une nouvelle catégorie pour celles et ceux qui n'ont jamais eu de César. Le gagnant est Franck Dubosc.
Je dis souvent que je comprends pourquoi les comédies sont moins récompensées au César, mais je voudrais juste rappeler à l'Académie que j'ai fait des comédies qui n'étaient pas drôles.
Vous êtes en train d'essayer de semer le doute dans mon esprit. Le César de la meilleure adaptation est attribué à
Jacques Audiard.
Ou Emilia Pérez.
Et le César du meilleur son est attribué à
Erwan Kerzanet, Émeric de Volder, Cyril Ox, Nils Barletta pour Emilia Pérez.
Et le César des meilleurs effets visuels est attribué à Cédric Fayol pour Emilia Pérez.
Le César de la meilleure photo est attribué à Paul Guillaume pour Emilia Pérez.
Et le meilleur film ce soir, Emilia Pérez.
Le César de la meilleure musique originale est attribué à
Clément Ducol et Camille pour Emilia Pérez.
Et le César de la meilleure réalisation est attribué à
Jacques Audiard.
Je vais citer Winnicott. Winnicott, psychiatre anglais. Le plaisir de se cacher, la terreur de ne pas être découvert. Merci de m'avoir trouvé.
Ah, c'est vraiment surprenant.
Il faut croire que c'était le destin.
Voilà, c'était le résumé de la cérémonie 2025 des Césars, donc qui ont récompensé, vous l'avez entendu, alors 7 fois Emilia Pérez, 4 fois l'histoire de Suleiman, 2 fois le conte de Monte Cristo et 2 fois 20 dieux. Voilà pour le résumé. Qu'est-ce que vous pensez, juste rapidement, de ce palmarès? Est-ce que ça vous semble justifié? Alors, sans doute pas pour Emilia Pérez. Manu, tu as déjà donné ton point de vue sur ce film.
Moi, je suis plutôt content pour l'histoire de Suleiman, hein, que je trouve un très bon film. Enfin, surtout, c'est un premier film, donc c'est toujours intéressant. Enfin, c'est toujours bien quand un premier film a des prix, en fait. Voilà.
Ouais, et la prestation d'Abou Sangaré, qui était quand même remarquable pour un novice. Qui lui-même...
Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec les récompenses des révélations et j'aimerais bien un jour regarder d'ailleurs parmi les révélations ceux qui ont continué à faire du cinéma. Ça me semble pas toujours très, très...
C'était pas le projet d'Abou Sangaré en tout cas, qui avait envie d'être dans la mécanique.
Mais là, il se trouve que ceux qui ont été récompensés n'ont jamais fait de conservatoire ni rien du tout, d'école d'acteurs.
Ils sont peut-être pas forcément capables d'incarner d'autres rôles.
Là, c'est une question.
Je trouve ça hyper dommage.
C'est une question de direction d'acteur et c'est, après c'est de la mise en scène d'une certaine manière. Moi je regrette juste que le Miséricorde de Alighieri n'ait rien eu,
rien du tout.
Et notamment je pense le rôle du curé, je me souviens,
mais il était même pas cité, c'était pas lui qui était cité dans les seconds rôles.
C'était pas lui, mais bon, je pense que le film aurait pu remporter quelque chose, au moins peut-être le prix du scénario.
On va refermer les Césars, mais on va parler des Oscars, parce que c'était le même week-end. Donc, on sait que Emilia Pérez n'a pas eu grand-chose, hein, mais quand même le meilleur second rôle et meilleure chanson. Après, le meilleur film, c'est Anora, meilleure réalisation, Shane Baker. Donc, autant dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ce choix.
C'est tout le paradoxe de ce genre de film, en fait. Enfin, de mon point de vue, je pense que c'est un vrai bon film. Mais je ne le vois pas du tout être en lice pour ce genre de prix, surtout quand on voit certaines autres œuvres qui sont en face. Parce qu'il est bien fait, il est très bien fait même. Mais je sais pas, en face, il y a des trucs comme The Brutalist, il y a des projets de mise en scène en fait, qui sont puissants, tellement puissants, et qui apportent quelque chose de...
Mais en tout cas, en face, il y avait aussi Conclave, hein, quand même, qui se retrouvait là-dedans.
Et qui a eu le prix, ça c'est un peu aberrant.
La meilleure adaptation, je crois.
Le prix du scénario.
Un prix du scénario.
Moi, je l'aurais donné, alors pour le coup, je pense que celui qui aurait pu mériter le prix du scénario, c'est Un illustre inconnu. L'adaptation de Bob Dylan, je trouve que c'est un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est merveilleusement bien écrit. Alors, je ne sais pas s'il était cité dans cette catégorie.
Non.
Mais il a été cité quelques fois.
Oui, peut-être.
Mais oui.
Vraiment, la grande tristesse de manière générale de ces deux cérémonies, c'est l'oubli, je pense, pour le film étranger. C'est moi, Les graines du figuier sauvage, que je trouve exceptionnel.
Et le meilleur film étranger est revenu au film de Walter Salles, sorti il y a peu dans les salles françaises. En revanche, meilleur son, alors là, je ne peux que saluer Dune, deuxième partie. Le travail sonore, j'adore le son, et je trouve que le travail sonore sur ce film est vraiment remarquable. Et c'est tellement rare aussi, les films qui sont préparés de cette manière, que je trouve ça très justifié qu'il soit récompensé. Meilleure photographie pour The Brutalist, je trouve ça aussi très justifié, parce que moi je fais partie de ceux qui l'ont vu au cinéma. Image en 70 mm avec le piqué qu'il faut, la définition. Et puis, meilleur acteur pour Adrien Brody. Alors là, je ne trouve pas ça du tout démérité, parce que je trouve qu'il tient le film de bout en bout. Voilà ce que nous pouvions dire sur les Oscars. Autant dire qu'on n'avait absolument rien préparé là-dessus. Donc voilà. Allez, on enchaîne avec le dernier film dont nous allons parler et qui est en salle depuis le 2 mars sur les écrans. C'est un thriller économico-socialo-érotique avec Jeanne Balibar et Damien Bonnard. Nous parlons du système victorien.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagés à faire et accessoirement ce pour quoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord?
Directeur de travaux, David est à la tête du chantier d'une grosse tour en construction à la Défense qui pose problème. Lorsqu'il croise dans le chemin de Victoria, ambitieuse DRH d'une multinationale, il est immédiatement séduit par son audace et sa liberté. Alors entre relations passionnelles et enjeux professionnels, David va se retrouver pris au piège d'un système qui le dépasse, un système qui le répugne tout autant qu'il le séduit. Alors on débute sur un plan en contre-plongée totale, qui monte et qui nous fait découvrir un immeuble en chantier qui est en train d'être bâti. Alors ce plan fait forcément penser à une version plus sombre et pesante du dernier plan du rebelle de King Vidor, adapté de la source vive d'Ayn Rand, qui voit l'exacte même prise de vue, mais dans le sens contraire, nous amener vers le sommet d'un immeuble où nous attend un Gary Cooper victorieux. Alors ici, pas de force tranquille ou d'homme incorruptible qui ne s'est pas plié face à l'adversité, mais un architecte, David, qui va avoir besoin d'un coup de pouce pour arriver à garder la tête haute, quand bien même c'est ce qu'il demande depuis le début. Alors au-delà de l'aspect matériel, c'est l'humain qui cherche dans ces univers bétonnés et une droiture qui ne va pas forcément de pair avec les impératifs des clients et la manière de communiquer des gens au-dessus de lui. Ce coup de pouce, c'est le destin qui s'en charge en lui mettant Victoria, nom symbolique s'il en est, sur son chemin.
Mais oui, t'es en retard. On est en retard parce qu'on est en retard.
T'as une solution ? Non, mais on va trouver.
Monsieur ? Ça aurait été dommage que quelqu'un vous l'apprenne.
C'est pour ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Appelez-moi si vous passez à Bruxelles, comme ça vous m'offrirez un café.
Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret ?
Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place.
Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous.
Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit.
Tu veux une augmentation ?
Non. Du respect.
Des dialogues significatifs vont faire s'affronter deux visions de la vie et comprendre les rouages d'une entreprise qui est impitoyable et calculatrice avant toute chose. Alors lui, il dénonce les puissants qui savent qu'ils imposent des délais impossibles à tenir, loin de tout bon avis logistique, et qu'il y aura toujours une bonne poire qui va tout sacrifier, vie de famille, santé et honneur, pour essayer d'accomplir l'infaisable. Elle critique ces pas puissants qui sont trop bêtes pour accepter ces conditions, qui sont certes très contraignantes, mais qui leur permettra de passer pour des héros s'ils arrivent à combattre ce système et à planter leur drapeau en haut de la montagne, ou plutôt de l'immeuble en construction. Alors dans le rôle de la femme d'affaires sûre d'elle et dont l'eau calme cache un crocodile qu'on attend de voir surgir à tout moment, Jeanne Balibar assure le spectacle et apporte le contrepoint idéal au personnage de David. David, c'est Damien Bonnard qui a probablement dû puiser pas mal de sa propre expérience puisqu'il est le fils d'un homme qui a travaillé dans le bâtiment et il sait rendre le côté terre-à-terre, physique et un peu ours de ce genre de bonhomme avec bonheur. Le système Victoria sonne comme des retrouvailles pour eux, car ils s'étaient déjà croisés dans Les Misérables de la Hedgley, mais aussi dans le processus de paix d'Ilan Kippler, une alchimie nécessaire vu les scènes d'amour qu'ils partagent à l'écran, et elles sont nombreuses.
Je vous trouve très beau.
Moi aussi, je vous trouve très belle. Il y a quelque chose que tu me dis pas. T'es pas comme d'habitude.
Monsieur Kolski, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler.
On m'a proposé 300 000 euros si je livrais le chantier avec 6 semaines de retard.
C'est qui on ?
Alors la mise en scène de Sylvain Descloux est intéressante car elle semble entièrement construite autour du regard. Il y a des ouvertures en iris, caméras en légère contre-plongée ou plongée sur ces personnages. Tout nous invite à non seulement les scruter, les analyser, mais aussi à prendre au piège David dans la galère dans laquelle il s'est mis et d'espérer le voir s'en sortir, bien évidemment. La bande-son, accompagnée dès le départ du tic-tac d'une horloge, décuple l'atmosphère menaçante de l'épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, achève de l'étouffer, aidée par la photographie assez jolie d'Inès Tabarin. Alors le réalisateur n'hésite pas, de son propre aveu, de trahir la structure et la fin du roman d'origine, écrit par Eric Reinhard, pour s'approprier ce récit en forme de commentaire autant social que politique, révélateur du jeu de marionnettisme des puissants et de l'assouvissement, parfois consentant, des pas puissants qui ne ressortent jamais vraiment grandis de s'être frottés à ce monde impitoyable.
Et j'ai vu ce film que je trouve plutôt bien fichu, et notamment les deux personnages sont très bien écrits. Alors c'est issu évidemment d'un roman, donc ça peut aider. Et le personnage de Jeanne Balibar est vraiment remarquable. C'est un personnage qui ne doute pas. Alors elle dit à un moment, lui il lui dit mais ça te fait pas peur cette situation, parce qu'il y a une situation où il y a son mari, son amant, et puis Damien Bonnard qui joue son nouvel amant. Enfin bon, bref, une situation assez incongrue. Donc elle est imperturbable. Elle dit simplement, bien oui, moi j'ai peur, mais je le montre pas. Et Damien Bonnard, lui, fait le personnage inquiet. Effectivement, il suit les délais. Et il est absolument attiré par cette personne, il est pris par cette passion. Ça commence par de l'impuissance, mais ça se termine par une virée dans une boîte échangiste. Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue. On voit le personnage changer. Alors celui de Jeanne Balibar ne change pas, mais celui de Damien Bonnard change dans ce film. Le système Victoria est en salle depuis le 5 mars.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et toi Guillaume, tu vas parler d'un film qui était en compétition à Cannes.
Oui, je vais vous parler du dernier Paolo Sorrentino, Partenope.
Toi Manu, tu auras un film.
C'est Blue Sun Palace, film de Constance Chang.
Et toi Sophia ?
Je parlerai de The Last Showgirl et peut-être aussi de Black Box Diaries.
Et nous écouterons les frères Bouguerraba pour un film qui ne fera pas date. C'est délocalisé. À la semaine prochaine.